Libre à Dieu. Un regard courbe comme un sabre, sur un monde retors comme un patron. www.libradio.org. La radio qui aiguise les lames, et qui épaisse les corps.
Alors nous voici toujours depuis EMA Art et Terroir, c'est un espace culturel multidisciplinaire qui se situe au 77 avenue de Châtelaine. Bienvenue Emiliano.
Bonjour.
Nous sommes ravis de te recevoir. Tu viens en ta qualité de membre des communistes, une organisation qui est ici à Genève et dont tu vas nous présenter un petit peu les postures et les dessins. Mais avant cela, peut-être que tu te présenterais en tant que personne déjà, quel est en quelques mots ton parcours et ce qui t'a mené à adhérer aux communistes.
Ça fait 5 ans maintenant que je suis membre du Parti communiste. J'ai adhéré au Parti communiste à partir de ma deuxième année de CG. Donc j'ai été étudiant à l'ECG, j'ai fini mes études à l'ECG et par la suite je suis rentré en apprentissage de graphiste en dual. Là aujourd'hui je suis plus en dual, je suis en plein temps, j'ai été licencié et c'est un cas exceptionnel. On m'a accepté en plein temps. C'était un travail que j'ai fait de faire de l'autodéfense. Je me suis défendu contre mon employeur et exceptionnellement, l'école m'a autorisé de réintégrer l'école en plein temps. Ce qui, normalement, n'est jamais le cas pour un apprenti dual. Normalement, il est à la rue et c'est tout.
D'accord. Donc, peut-être préciserais-tu ce que signifie être un apprenti dual ?
Oui, donc c'est les apprentis qui font en entreprise et à l'école. Donc là, actuellement, je suis au tribunal contre mon ancien employeur. Je parlais de ça parce que je fais également des vidéos sur YouTube pour que les autres apprentis dual apprennent à se défendre. Donc si jamais les vidéos s'appellent Apprenti énervé.
Ah, c'est toi.
Oui.
Ah bah c'est très bien, parce que moi je les regarde et je savais pas que c'était toi. Très bien, oui, je recommande également. On mettra les liens de toute façon.
D'accord.
Apprenti énervé, oui. Très bien. Ok, alors voilà, ça c'était un des actes de résistance. Et c'est égal, peut-on dire que c'est cette situation-là qui, de fil en aiguille, t'a mené à adhérer au communisme? Il y avait également d'autres choses ou...
Il y a d'autres détails, disons, ouais. Mes parents ont toujours été assez proches des mouvements communistes. Mon père, qui est d'Argentine, suivait beaucoup, disons, Fidel Castro, etc.
Oui.
Enfin, disons, les différentes révolutions qu'il y a eu en Amérique latine. Puis ma mère aussi, de gauche en général.
D'accord, donc t'es un petit peu un enfant de la balle, c'est-à-dire voilà. Issu d'un terreau fertile, pourrait-on
voilà.
Dire. D'accord. Pourquoi les communistes, et qui est récent finalement, qui
oui.
Est un groupe récent, nouveau, pourrait-on dire, et pas par exemple le PDT à Genève ou Solidarité ou d'autres oui. Entités
Alors, ben, simplement pour moi, en fait, il y a déjà un facteur qui, bon, peut maintenant me paraît un peu folklorique, mais que je trouve quand même très important, c'était le fait que le Parti communiste genevois, il assume le marteau et la faucille. Pour moi, le fait d'assumer le marteau et la faucille, c'est dire que ben, nous, ce qu'on veut, c'est travailler avec les travailleurs. Et qu'on est sur une question de classe, vraiment. Donc la question de lutte des classes, ce que je trouve qui a été perdu au niveau du PDT, et puis que Solidarité ne fait pas vraiment, à mon avis.
D'accord. Juste, on va préciser, PDT, Parti du Travail.
Ouais, Parti du Travail.
Et Solidarité, c'est également un parti de... Est-ce qu'on peut dire gauche radicale, c'est comme ça qu'on dit ou
Oui.
Bon, enfin... On s'est compris, quoi. Il y a un joli élément de votre logo, qui est celui, donc on voit communiste, écrit communiste, avec à l'intérieur, en rouge, uni. Donc ça veut dire que parmi, et ça prétérite mes prochaines questions, qui sont celles sur les idées centrales que vous mettez en route, que vos pratiques et ce que vous dites, pour vous, l'unité, il y a quelque chose de central là-dedans.
Ah oui, effectivement, ben pour nous c'est assez important l'unité du mouvement ouvrier. Alors on ne cherche pas forcément, enfin c'est toujours bien aussi d'avoir l'unité au niveau des partis de gauche, mais le plus important c'est qu'on cherche plutôt à s'allier et à travailler avec plutôt des associations ou des groupes d'autodéfense de travailleurs ou là comme on fait d'apprentis ou de jeunes travailleurs. On s'est un peu légèrement séparé, disons, de la politique institutionnelle. On n'est pas non plus à dire que ça sert totalement à rien, c'est une manière de lutter. Mais on a préféré plutôt vraiment se centrer sur une base et travailler avec des milieux associatifs plutôt.
Ok.
Quelle est votre position face aux peut-être dérives qu'il y a eu, par exemple en Chine ou en Russie? Quelle est la position du Parti communiste Genève par rapport à ces dérives-là?
actuellement, surtout au niveau là maintenant du Parti communiste chinois, d'abord par le Parti communiste chinois, je dirais que après Mao, le Parti communiste chinois a suivi tout un processus de réintroduction d'une économie de marché en Chine, ce qui justement fait que maintenant le Parti communiste chinois, juste communiste de nom, mais plus vraiment, n'est plus vraiment un mouvement communiste tel quel. Pour le Parti communiste russe, à partir de Khrouchtchev, on a justement aussi ce même processus qu'il y a eu en Chine. Donc un processus où on réinsère petit à petit une économie de marché. Tout ce qui était collectivisé a peu à peu été privatisé. Donc on donnait finalement aux gens, on disait bon ben voilà, ça t'appartient, c'est plus vraiment collectif. Et ça a permis de réintégrer petit à petit des éléments d'économie de marché. Et puis suite à ça, l'économie soviétique s'est cassée. Et puis il y a aussi une cassure avec le peuple. Je trouve que aujourd'hui, de nos jours, le Parti communiste russe est redevenu un parti qui se concentre plus sur la question de classe et la question ouvrière. Ils se sont recentrés là-dessus. Disons, les dirigeants qui étaient plus sur une question d'économie de marché sont partis pour vraiment se recentrer sur une question de classe. Comme je disais aussi, le Parti communiste genevois, il travaille beaucoup, enfin il s'inspire beaucoup du travail que fait le KKE, donc le Parti communiste grec, qui est vraiment un peu un des partis sur lesquels on s'aligne le plus.
D'accord.
Quelle est votre position par rapport à Cuba ?
Alors ça c'est vraiment très personnel, du coup c'est clairement pas au nom des autres membres du parti. Moi je soutiens totalement la révolution cubaine, je soutiens totalement Fidel Castro. C'est pour moi, la révolution cubaine est l'exemple d'une réussite, à la différence de tous les autres pays d'Amérique latine. C'est le pays où il y a le plus de médecins par famille. Il y a un médecin chaque trois familles. C'est le seul pays d'Amérique latine qui ont envoyé des personnes dans l'espace. Bon, avec l'aide de l'Union soviétique, mais c'est quand même pas rien. Quand il y a eu l'ouragan de Katrina, il n'y a eu aucun mort, à la différence des États-Unis où il y a eu des morts et des autres pays des Caraïbes. Et c'est un pays aussi qui a beaucoup de fumeurs par rapport aux autres pays d'Amérique latine, et pourtant qui compte le moins de cancers de poumons, vu qu'il y a une bonne ils ont des bons traitements, et puis justement ils ont une médecine gratuite et de qualité. Ils ont aussi un des meilleurs niveaux d'éducation en Amérique latine.
Est-ce que vous avez d'autres exemples de communisme réussi ? Est-ce que vous avez d'autres modèles de...
Moi, j'aimerais aussi dire quelque chose, parce que quand on dit communisme réussi, c'est comme si en fait c'était tous un échec, alors qu'en réalité l'échec du communisme, en fait, il a simplement été dû à une réintégration d'un système économique de marché qui est souvent venu de l'extérieur, souvent par des gens de l'école de Chicago, des choses comme ça. Mais est-ce qu'on parle de réussite du capitalisme quand il y a 5 millions d'enfants qui meurent de faim chaque année de moins de 5 ans là,
on va peut-être préciser l'école de Chicago, des économistes nord-américains, oui, qui se sont par ailleurs insinués au Chili, qui ont beaucoup travaillé à dégrader ce qui se passait sous Allende, dont on a parlé tout à l'heure, et qui encore aujourd'hui ont des émules. Il y a des néo, on pourrait dire une néo-école de Chicago, en tout cas des gens qui s'y réfèrent encore. Revenons à la réalité genevoise, puisque c'est vrai que c'est une particularité du Parti communiste, là en l'occurrence, c'est que son terrain d'action est celui local genevois.
Oui.
D'accord. Pourquoi ce choix ? C'est parce qu'il fallait s'ancrer, s'enraciner dans un territoire et dans une entité à mesure du humaine ?
Je pense, déjà, bon, le fait principal, c'était que c'était le Parti communiste, quand il s'est fondé, c'était la jeunesse genevoise du Parti du Travail, qui a eu une cassure à l'époque et qui a fondé le Parti communiste genevois. Donc déjà, c'était déjà très local dès le départ. Je pense qu'il y avait aussi une problématique de se recentrer, parce qu'avoir quelque chose de national dès le départ, c'est énormément de travail. Ça peut empêcher de faire un travail politique. On va plutôt se centrer sur des choses très administratives plutôt que de faire un travail politique. Chose que nous, on aimerait refaire. Mmh.
D'accord. Alors venons un peu aux idées centrales, à la théorie et puis bien sûr aux pratiques qui les accompagnent. Mais voilà, y a-t-il une filiation d'une certaine manière ? Est-ce qu'au Parti communiste, on se dit du marxisme, des conseils, ou justement pas ? On tente un syncrétisme et puis une sorte de convergence, un petit peu de différents courants au sein du communisme ?
Alors, moi, disons, le Parti communiste genevois est marxiste-léniniste. On n'est pas contre les alliances avec d'autres mouvements marxistes. Il y a un intérêt pour une certaine lutte à un moment donné, à condition que ça se fasse par rapport à des positions politiques et pas juste on fait une alliance parce que faire une alliance où ça nous fera plus d'électeurs ou des choses comme ça. Parce que au Parti communiste, on est contre. Après, on essaie aussi de travailler sur plutôt comme fait par exemple les Grecs, comme font les Grecs, des institutions qu'on pourrait dire de masse entre guillemets. Donc, ce sont par exemple comme Apprenti Énervé, qui permet à des jeunes qui sont pas forcément communistes de faire un travail sur une question de classe sans être communiste. C'est juste voilà, eux ils ont une problématique par rapport à leur travail. Du coup, comment on fait pour les organiser et comment eux font pour s'auto-organiser. Enfin, je préfère plutôt le terme co-organiser parce que auto, ça sort un peu d'un automatisme, alors que co-organiser fait plus penser que chacun a une qualité ou une utilité dans un groupe. Par exemple, moi, comme j'ai dit avant, je suis apprenti graphiste. J'utilise mon talent au sein du parti en tant pour toutes les questions de communication. Aussi, quelque chose où on s'est beaucoup recentré dans le Parti communiste, c'est cette tendance qu'a la gauche à faire, par exemple, on a fait une affiche et pour nous, c'est une lutte politique. Alors que pour le Parti communiste, une affiche, c'est de la prospection. C'est un moyen de communiquer un message, mais en aucun cas, c'est une lutte politique. Une lutte politique, elle se voit jamais en réalité. Même une manifestation, elle ne se voit pas. Pour moi, une lutte politique, c'est justement quand il y a des personnes, même dans une réunion, qui parlent entre elles d'une problématique. Comment résoudre cette problématique? Là, ben, je vais revenir avec la question des apprentis, parce que c'est la question sur laquelle je me charge le mieux. Et justement, si je peux donner un exemple... Quand j'ai commencé au parti, j'étais aussi rentré dans l'association des jeunes engagés.
Oui, la JA.
La JA, ouais. Et pour moi, ça a été un échec. Ça a été un échec total. En fait, au début, je ne me suis pas rendu compte tout de suite, mais c'était très folklorique dans le sens qu'il y avait tout le monde qui chantait l'international. Alors j'adore l'international, il n'est pas là le problème. On avait l'impression, alors il y a une vingtaine de jeunes qui crient l'international, etc. Alors on se dit, ah c'est super révolutionnaire, on va retourner Genève, il n'y a rien qui se passe. Puis un autre truc, c'est, t'es apprenti, tu vas vers un patron, il te fait un peu du chantage, il te fait du mobbing, etc. Chanter l'international, ça va servir à rien. Au pire des... bon déjà, je pense que personne ne va le faire devant lui, mais si en plus on le fait, passe pour un guignol et ça l'empêchera pas de te licencier, ou si tu te fais licencier tu gagneras rien après. Nous on est vraiment sur, il faut même si ça peut paraître réformiste au début, donner du très concret, du très pratique. Il faut savoir que toi en tant qu'apprenti, tu dois être remboursé quand tu fais tes cours inter-entreprise, tous tes trajets doivent être remboursés, chose qu'aucun apprenti ne sait. On a le droit à une semaine de vacances supplémentaires qui s'appelle un congé jeunesse, chose que personne ne sait. En plus, un apprenti ne peut pas être licencié parce que c'est un contrat à durée déterminée. Puis même si, disons, il insulte un collègue, j'appelle pas à l'insulter, mais même s'il insulte un collègue, il peut pas être vraiment renvoyé parce que ça va aussi avec l'âge et puis toute dépression qui va dans le monde du travail. Et puis en plus, il faut savoir que les collègues se défoulent beaucoup plus sur les apprentis que les apprentis. Les apprentis vont toujours devoir s'excuser, mais les collègues qui insultent, et moi je l'ai vécu, employeur qui insulte, je l'ai vécu aussi, eux ils n'ont jamais à s'excuser.
Je vois que tu es très attentif au champ sémantique, les mots sont-ils importants? Est-ce que ce sont ces mots-là qui vont nous permettre de faire sens ensemble et de changer les choses?
Je pense que connaître son sujet, ça c'est principal, donc ça revient avec ce que je disais avant. Ça revient aussi à savoir avec qui on s'allie, par rapport à quelle problématique. Je vais pas commencer, on peut avoir un soutien des universitaires par exemple, mais c'est pas le public que je dis, si on peut le dire en termes de communication, mais disons, c'est pas vraiment avec eux tout de suite qu'on va se mettre, ce serait même une perte de temps au final. Si c'est quelque chose avec les universitaires, et puis avoir toute une dialectique d'universitaire, il faut le faire par rapport à une thématique qui touche l'université. On ne va pas dire, revenez avec les apprentis, ouais. Ça verra.
Ce n'est pas le groupe de gens, mais c'est effectivement le sujet sur lequel vous êtes sensible. La pédagogie, l'éducation populaire, ça c'est des notions centrales?
Oui, alors ça c'est très important. On essaye aussi... Pas seulement de travailler sur... ça reste toujours dans la thématique du travail, mais par exemple aussi d'apprendre aux jeunes à comment s'organiser en association aussi. On est encore au début. C'est quelque chose qui est toujours bien pour apprendre justement à eux comment ils s'organisent entre eux et comment aussi résister et avoir une certaine pas culture politique, mais culture de la résistance et puis culture aussi de comment on apprend soi-même à faire des choses en fait et comment on collabore avec d'autres personnes.
Ouais. Alors la lutte des classes pour toi, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel on est en plein? Tu sais, on entend beaucoup de médias de masse justement, soit minimisés, soit d'une certaine manière neutralisés en disant que c'est quelque chose de dépassé, d'obsolète, etc. Quelle est ta position? Quelle est la position des communistes par rapport à ça?
La position des communistes qui est la même, la mienne aussi. On est totalement dans la lutte des classes. On est dans une très très grosse crise capitaliste en ce moment-là. Et c'est pas juste par rapport au néolibéralisme. C'est vraiment, on est entre des différences entre la bourgeoisie et les travailleurs. Dans des différences de salaire et un fossé en fait.
Et qui s'étend toujours.
Qui s'étend encore plus.
Mmh, ouais. La situation de la gauche et de la gauche radicale à Genève, comment, de ton point de vue, l'observes-tu?
Moi, je la vois très mauvaise. Mmh. Déjà, moi, ma première critique, c'était quelque chose que je disais, c'est quand on pense que faire de la prospection, c'est de la politique, c'est déjà un très très gros problème pour moi. Quand je vois un article, par exemple, je vis Solidarité par exemple, mais il y a d'autres groupes qui font ça, ça pourrait être le PDT aussi, ils disent, ah ouais, on va se rapprocher de la masse, mais pour eux, se rapprocher de la masse, c'est aller leur distribuer des flyers. C'est toujours pas une politique, ça. C'est, oui, c'est une politique de prospection, mais ça, c'est pas du tout un projet politique. Et ça, c'est pour ça qu'il y a un très gros recul de la gauche en Suisse, puis à Genève.
Alors les modes de lutte qui nous permettraient de recouvrer une gauche combative et unie, selon toi, quelles pistes pourraient-elles exister?
Il y a quelque chose que j'ai déjà dit avant, enfin que je me répète et je trouve que c'est important de le répéter, c'est déjà il faut se recentrer sur la question de classe et sur la question du travail, de se confronter à la question du travail. Plus personne ne veut se confronter à la question du travail. Quand je parle de se confronter à la question du travail, c'est même au niveau des syndicats. Par exemple, moi, je suis syndiqué. Donc, je suis à Syndicom. Eux, ils disent, c'est très important que tu luttes, que tu te mobilises, etc. Alors, c'est vrai. D'un côté, ils veulent ça, mais d'un côté, après, au moment... quand on arrive au tribunal ou qu'il faut vraiment se défendre contre l'employeur, ils vont dire non, mais laisse-nous faire, c'est nous on fait le boulot. C'est pas déjà c'est pas très clair, c'est pas très transparent comme méthode de travail. En fait, c'est comme si on disait ouais, faut que tu luttes, mais pas vraiment. En fait, il faut un peu que voilà, tu participes, paye surtout tes cotisations, c'est important. Mais en même temps, tu nous laisses faire le boulot et puis même après, on sait pas vraiment ce que le ou la juriste demande. Alors moi j'ai pas de problème avec ma juriste et puis genre dans les syndicats il y a des très bonnes personnes, ça vient surtout d'un problème de l'USS et des conventions collectives.
L'Union Suisse des Syndicats.
Ouais, l'Union Suisse et des conventions collectives qui sont des accords avec les patrons et l'Union Suisse des Syndicats est majoritairement financée par les patrons, ce qui est un gros problème. Par exemple, pour moi, un syndicat qui est très valable, Syndicat Sud.
Solidarité, Unité, Démocratie.
Il me semble, c'est ça.
Je crois que c'est ça, ouais.
C'est donc le Syndicat Sud qui, justement, eux, ils sont pas dans cette logique-là. Pour moi, je trouve qu'ils font un travail excellent. Mm-hmm. C'est justement avec ce type de groupe que nous, dans le Parti communiste, on essaie de se rapprocher plus qu'avec des groupes politiques ou qui essayent de faire de la cooptation.
Ouais, j'ai bien compris. Peut-on parler d'un syndicalisme inabouti à Genève ou biaisé ou...
Moi, je dirais plutôt un syndicalisme qui n'est pas un syndicalisme. Mmh.
Façade.
Ouais, voilà, qui a trahi d'une certaine manière. Ouais. C'est un mot qui est fort, mais je pense que c'est important d'utiliser maintenant des mots qui sont forts, de revenir avec des mots qui sont forts.
Mmh. Comment est-ce qu'on en sort de cette impasse-là, justement? Il faut refonder par réorganiser des groupes. Tu parlais de Sud. Est-ce que, par exemple, des organisations comme la CNT en France seraient, selon toi, plus à même de recouvrer cette force syndicale qui nous fait tant défaut ici?
Moi, je pense surtout que ça se fait petit à petit naturellement. On constate, encore une fois, je reprends l'exemple de Lausanne, enfin du canton de Vaud. Mmh. Le comité des électros de Unia, des électriciens de Unia, il y a une cassure dans Unia. Suite au licenciement de Laurent Totamenti, qui avait fondé le comité des électros. Cette cassure, elle est due à cause de ses accords avec le patronat. Et il y aura de plus en plus de ces cassures-là. Maintenant, ce qui compte, c'est pas que... Justement, nous, on veut éviter la cooptation en disant « Ah, faut que tous ces groupes ils rentrent dans le parti communiste », des choses comme ça. Non, absolument pas. Parce que, bon... Comme disait Mao, on ne fait pas rentrer quelqu'un dans le Parti communiste qui n'est pas intéressé de rentrer dans le Parti communiste. Et par contre, on peut travailler avec quelqu'un qui est intéressé sur une question de cas, ou même sur une question simplement de droit du travail.
Ouais.
Et donc justement, je pense que le fait déjà de travailler avec ces groupes-là, et que ces groupes en fait travaillent entre eux sur des positions politiques claires et des positions syndicales claires, permettrait déjà d'avoir un renouveau du syndicalisme, en tout cas là je vais dire en Suisse romande, parce que je ne sais pas trop encore comment ça se passe finalement.
En tout cas, on entend bien que la transparence, la probité, enfin tout ça, c'est des éléments qui sont centraux au sein des communistes. Et je trouve que ça tombe vraiment bien, parce qu'effectivement, ces derniers temps, en Genève, on peut pas dire que l'opacité ne soit pas... Il n'y a pas un regain d'opacité à tout point de vue, et des fois même dans des franges desquelles on s'attendrait à autre chose. Voudrais-tu peut-être déjà nous dire le site internet sur lequel on peut aller un petit peu piocher des informations concernant l'organisation ?
Le site internet est actuellement en reconstruction.
Donc c'est la page Facebook.
Ouais. Et sinon, c'est la page Facebook. On a aussi une page Instagram qui arrive bientôt. Et sinon, on a le site faitpayerlebourge.ch.
Splendide affiche. Moi, je trouve que c'est la plus chouette, en tout cas. On veut la décrire. Alors, c'est un monsieur qui tient par le bas du pantalon un autre monsieur, dont les poches se vident de tout cet argent accumulé au secret de ses poches, et qui est donc, on le comprend bien, redistribué à tout le monde. Qui a eu l'idée de cette affiche ?
C'est moi. Enfin, c'est pas vraiment moi, c'est dû d'un trait collectif, mais disons, cette idée, en fait, elle est venue déjà d'une ancienne campagne qu'on a eue, une campagne pour Nobilag. On était revenu avec ce « Fait payer le Bourge ». On avait une problématique, c'est que sur Facebook, quand on sponsorise quelque chose, on peut pas mettre beaucoup de texte. Il nous empêche de mettre beaucoup de texte. Mais si on l'utilise, par exemple, comme une pochette de CD ou un t-shirt, il nous laisse mettre tout le texte qu'on veut.
Okay.
Alors on a mis un t-shirt, « Fait payer le Bourge », un peu comme un t-shirt de rap. Et il y a des personnes qui ont dit « Est-ce qu'on peut l'acheter, ce t-shirt ? Ou est-ce qu'on peut le choper ?» Alors je me suis dit « Mais c'est génial, ce truc. » En fait, ça revient un peu sur un discours de classe, parce qu'il y a le côté « Fait payer », lui, il doit payer ses impôts. Il y a le côté... un peu plus vraiment de classe, quoi.
Ouais.
Un peu de confrontation. Donc,
une reprise en main énergique.
Voilà. Donc nous, on assume totalement ce côté lutte des classes, comme je le disais. Et là, par la suite, donc pour RFF1, on s'est dit, on va réutiliser ce slogan, qui est un très beau slogan, et puis qui nous correspond tout à fait. Et puis on va totalement assumer d'utiliser un pictogramme qui représente justement cette personne qui fait sortir les billets à un banquier ou quelque chose qui représente un bourgeois, en fait.
La réforme, on va en parler dans quelques instants, c'est la réforme fiscale et le financement de la VS pour laquelle on va voter le 19 mai prochain et qui nous redite de la RIE3, etc. Mais tu nous en parleras dans quelques instants. J'aurai encore une ou deux petites questions concernant justement. Alors, pour actuellement, c'est la page Facebook qui fait foi. On peut aller, on met les communistes et on tombe sur le groupe de Genève, les communistes de Genève. Et puis là, on peut un petit peu voyager et trouver des choses. Quelle était la réaction justement des personnes qui ont vu cette affiche ? Est-ce que vous avez eu ? Parce que moi, je sais que ça m'a fait réagir. J'ai tout de suite fait un mail en disant c'est la plus jolie à mon sens. Y a-t-il eu le contradictoire de ceci ?
Alors on a eu deux grosses réactions. La première est sur même trois réactions. Alors il y en a une, ça c'est un de mes camarades qui a vu ça dans la rue. Une de nos affiches a été taguée en disant ah mais ça va les faire partir, dans le sens ah les bourgeois vont partir. En même temps j'ai dit tant mieux qu'ils partent. Voilà. On a eu une autre réaction aussi. On a eu des mèmes sur Instagram. Des gens ont repris l'affiche pour en faire des mèmes. Par exemple quand quelqu'un paye pas sa tournée, justement on lui vide ses poches comme ça. Et on a été striké sur Facebook aussi. Il y a des gens qui se sont plaints. Donc le lien fait payer le Bourge ne marche plus vraiment sur Facebook, on peut plus le mettre. Et il y a Alexis Favre, donc qui travaille pour Infrarouge, qui a écrit un article sur Le Temps, se scandalisant du fait que l'affiche tutoie. Et il nous compare à un marketing de Ikea. Alors moi, j'ai envie de dire à ce monsieur Favre, s'il se met en position latérale de sécurité parce qu'un objet Ikea dans son carton est écrit avec les phrases en tutoyant, si quelqu'un le tutoie en vrai, je me demande s'il va pas aller en coma ou quelque chose comme ça. Mais je pense que c'était aussi une stratégie de sa part, une stratégie pour masquer la vraie problématique. Donc, qu'est-ce que RFF1 ? Est-ce qu'on peut se permettre en fait de dire qui doit payer ses impôts ? Parce que c'est un tabou aujourd'hui de dire que c'est aux bourges de payer les impôts. En plus, je trouve quelque chose de très hypocrite de la part de ce Alexis Favre. Alors lui, il se scandalise que du tutoiement, hein, que ces chers bourgeois qui ont des métiers si nobles, de docteurs, etc., se fassent tutoyer. Mais par contre, qu'un employé, un apprenti, se fasse insulter par son employeur, alors ça le scandalise pas du tout. Et dans le reste des médias, en général, il n'y a pas de scandale par rapport à ça. Donc ça, je trouve ça déjà très hypocrite de sa part. Mais pour revenir sur RFFA, pour nous, ce qu'on voulait travailler là-dessus, c'était déjà qu'est-ce que ça va apporter comme changement dans la société. Alors, comme changement en mal, quels boulots utiles vont disparaître et quels boulots inutiles vont apparaître. Aussi, cette arnaque avec l'AVS, qui soi-disant RFFA va permettre de financer l'AVS, alors que si on creuse un peu, c'est toujours les travailleurs qui vont financer l'AVS. Et puis, justement, revenir encore une fois sur, il faut insister sur le fait, même, je dirais encore plus loin que les bourgeois payent des impôts, c'est que les multinationales, les entreprises n'ont pas à faire de bénéfices, vu que c'est grâce aux travailleurs qui font le bénéfice. Donc ce bénéfice devrait tout simplement revenir aux travailleurs, en fait. Donc là, c'est déjà cette affiche, elle pose un peu les questions de à qui devraient retourner ces bénéfices.
Ouais. Alors, effectivement, parlons de l'RFFA. Juste avant cela, concernant encore le point terminé avec le groupe des communistes ici à Genève, qu'en disent les médias ? Est-ce que vous avez été tout de même approché par certains médias ? Je pense par exemple au Courrier ou à... Voilà. Est-ce que vous avez réussi un petit peu à en parler ? Est-ce que vous trouvez des personnes qui sont prêtes à relayer un petit peu ce... Parce que c'est une info également, je veux dire, le fait qu'un groupe politique émerge et qu'il ait cette position.
Non, pour le moment, alors vous êtes le premier média à vraiment nous contacter par rapport à ce sujet. Après, pour d'autres sujets, j'ai des camarades qui ont déjà été contactés. Après, c'était aussi il y a longtemps, des fois. Moi, j'étais pas encore membre à l'époque.
Ouais, ok. Alors, la RFFA, voilà, on en parle, on va le voter sur ce sujet-là le 19 mai. Le 19 mai, il y a tout un paquet de trucs sur lesquels on va voter. C'est un sujet central, hein, parmi des sujets centrales, d'autant plus qu'effectivement, on l'a dit tout à l'heure, c'est une redite multiple, hein, mais notamment de la RIO3, qui avait d'ores et déjà été refusée par les gens. Alors, n'y a-t-il pas déjà un problème à ce niveau-là ? Est-ce qu'il n'y a pas déjà une forme de déni de démocratie ? On refait voter, on a l'impression, jusqu'à ce que, d'une manière ou d'une autre, avec des modifications cosmétiques, eh bien, on finisse par faire passer cette chose d'une certaine manière de force.
Oui. Ah, totalement. Là, la droite essaye d'avoir les gens à l'usure. Et c'est un très gros problème démocratique. Quand on entend dire que la Suisse, on est le pays le plus démocratique au monde. Alors, j'ai plus les noms exacts, mais historiquement, quand on a lancé tout ce qui est référendum, etc., au début, c'était la gauche qui avait lancé ça, mais elle s'était très vite rendue compte d'un problème. C'était d'ailleurs des anarchistes qui avaient lancé ça. C'était que ça servait plus à la droite qu'à la gauche, puisque quand on a des moyens, ben on peut recommencer à faire voter, en fait.
Ouais. Pourquoi faut-il, selon toi, selon vous, refuser d'un seul homme, massivement, voilà, pour utiliser un bon terme, massivement, cette réforme de la fiscalité et du financement de l'AVS?
Déjà, pour comme premier point, je dirais, quand je parlais de boulot utile et boulot inutile, donc boulot utile qui vont disparaître et boulot inutile qui vont apparaître, c'est déjà, on se rend compte d'une chose, c'est que la bourgeoisie n'a pas envie que les multinationales partent. Donc déjà, elle le fait par intérêt des multinationales. Quel type d'emploi créer ces multinationales ou nous permettre d'avoir ces multinationales? Alors déjà, je vais parler de deux types d'emplois qui font partie du marketing, c'est les community managers et ceux qui font du SEO. Donc pour ça, ceux qui font du SEO, c'est des mecs qui sont payés pour mettre ton site en premier dans les recherches Google. Donc c'est des boulots qui servent à rien, et vraiment à rien. Si ces gens disparaissaient, enfin ils n'ont pas eux personnellement, mais le travail disparaissait, ça manquerait à personne. C'est d'autant plus que ces multinationales ne vont pas engager ces gens à Genève. Souvent, c'est des gens qui font venir de Paris ou de Londres depuis des agences de placement. C'est des gens qui sont de classe très aisée, qui ont fait des très très grosses universités en marketing, etc. Et sinon, pour disons des travaux plus modestes, ce sera extrêmement pénible. Je dis pour toutes les personnes qui sont dans les RH, ce seront des travaux extrêmement pénibles pour toutes ces personnes. Ils auront des salaires misérables et des conditions de travail infernales, et puis sûrement qu'ils seront insultés par leurs supérieurs, toujours le résultat de cette hiérarchie. Quand je parlais des boulots utiles qui vont disparaître, ben déjà, il y a toute la question, pour moi, des gens qui construisent ce pays. Pour moi, les gens qui construisent ce pays, c'est les infirmiers, infirmières, maçons, les conducteurs de bus, les professeurs, la fonction publique en général, sauf l'OFPC, mais ça c'est un autre sujet, et encore tout ce qui peut toucher à la petite enfance, même la création artistique, etc. Ça, pour moi, c'est des travaux qui sont utiles, qui construisent ce pays. On a déjà une hypocrisie par rapport à la droite qui dit « Ah, nous, on est pour le travail, etc. » Oui, alors ils aiment bien ces boulots de cadre qui sont SEO, community manager, etc. Mais tout ce qui est vraiment du travail, enfin, je vais pas dire concret, mais du travail un peu plus utile, alors là, ça les intéresse beaucoup moins, et c'est même des emplois qui sont en train de disparaître. Même par exemple un savoir industriel, alors aujourd'hui des industries c'est tout automatisé, on peut quand même revenir à un savoir technique, ça ils s'en fichent totalement, ils préfèrent justement avoir des gens qui font des boulots inutiles et former des gens là-dedans. Il y a une autre problématique aussi, c'est pour les écoles par exemple. Si je prends l'exemple des États-Unis, eux ils peuvent pas payer les cantines, donc les cafétérias. Du coup, c'est des entreprises comme McDonald's qui se chargent de la cafétéria gratuitement. Donc, si on acceptait FFA, finalement, on pourrait avoir un McDonald's qui se charge de la cafétéria. Bon, déjà, maintenant, c'est pas terrible parce que c'est privé, les cafettes, mais disons au moins, les écoles peuvent financer ça. Mais là, on serait sur une incapacité des écoles à financer les cafettes et ce serait vraiment la mainmise à McDonald's. On aura des problèmes de salubrité, toujours moins employés dans les cafétérias parce que McDonald's voudra se faire plus d'argent. Encore un autre exemple, ceux qui avec cette baisse d'impôts, à qui ça profitera beaucoup, c'est à Philip Morris. Donc Philip Morris, un géant cigarettier, font Marlboro. Eux, tout ce qui est community management, SEO, ils travaillent beaucoup là-dessus. Parce que sur Internet, ils peuvent faire toutes les publicités qu'ils veulent parce qu'aucune restriction. Il faut se dire que si RFFA passe, ces gens-là, ils ont des moyens considérables. Bon, ils ont déjà des moyens considérables, mais encore plus pour avoir encore plus de community managers, etc. Et ce ne serait pas étonnant que si RFFA passe, on ait une augmentation d'adolescents fumeurs.
Oui.
Donc voilà.
Donc il y a des vrais enjeux sociaux, sociétaux, de santé, d'éducation, enfin toutes ces, comme tu l'as dit, au profit de nouveau de multinationales.
Oui. Après, pour tout ce qui est aussi la question du financement de l'AVS, donc moi, la plus grosse arnaque là-dedans, c'est vraiment, ils disent, mais ça va être les patrons qui vont payer ça. Alors, ils vont payer 750 millions pour ça, mais eux, ils se gagnent 5 milliards. Donc déjà, là, on se dit, il y a un problème. Est-ce que vraiment ils vont le payer? Non, parce que ça va être déduit sur le salaire des employés à nouveau.
Eh oui.
Donc là, on est vraiment sur une arnaque totale. Alors l'EPS a accepté cette arnaque.
Mais voilà, c'était la question qui allait venir. Comment se fait-il qu'on n'a pas une gauche unie pour le coup pour refuser cette arnaque fiscale? Comment est-ce qu'on explique que voilà, l'EPS, par exemple, ne soit pas à fond avec toutes les autres entités de gauche qui refusent en bloc?
Déjà, pour l'EPS, disons, c'est... Pour moi, est-ce qu'on peut vraiment l'appeler un mouvement de gauche? Déjà, non. Ils se rapprochent de plus en plus d'un PLR, je trouve. Et ils ont tout intérêt plutôt à se baser sur leur position. Enfin, la position d'un PLR, c'est un parti qui est très clientéliste. Donc, c'est nouveau, pas un fonctionnement d'un parti de gauche. Puis après, comme je disais aussi pour des autres partis de gauche, c'est que c'est très superficiel, la manière de penser. On pense pas lutte de classe. Et puis on pense pas vraiment qu'est-ce que au niveau de la société ça va apporter. On aime plus apporter des chiffres, dire ah voilà, il y a tant d'emplois dans la fonction publique qui vont disparaître. Mais moi je suis dans le par exemple quelqu'un qui est dans le privé, il va pas forcément se sentir concerné. Par contre, à quelqu'un qu'on dit ton gamin il mangera un McDo à l'école, à cause de ça, il se sentira beaucoup plus concerné.
Absolument. Que dire de... Alors voilà, un des arguments des tenants de l'RFFA, c'est effectivement de rendre le canton le plus attractif possible pour les multinationales. Il y a également une concurrence qui s'installerait entre les cantons. Alors là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire de l'ordre de l'ensemble des cantons, justement une lutte à mener qui soit nationale, finalement, fédérale?
Ouais, tout à fait. Moi, je pense déjà que ça devrait être harmonisé, mais pas dans le sens que la droite le voudrait. Il leur faudrait un gros taux d'imposition. Et puis après, si on me dit que ces gens-là, ils vont partir... Enfin, ces multinationales vont partir. Je dis,
Grand bien leur face, mais qu'elles partent. Ouais. Quoi qu'il en soit, on sait bien que ça n'est pas que ça qu'il faut qu'une multinationale s'installe ici ou là. Il y a des infrastructures, il y a énormément les services qui... Il y a beaucoup d'autres éléments connus et non connus.
Oui.
Actuellement, si j'ai bien compris le dernier sondage, était assez... Voilà. Que dire pour réveiller les gens par rapport à cela, les appeler à aller voter en masse. On a déjà reçu le matériel de vote à la maison normalement, donc ça c'est vraiment un enjeu majeur pour ces prochains temps. On peut dire que si ça passe, les conséquences seront imparables d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut dire ça ?
Là, si ça passe, ça va vraiment être un scandale pas possible. Par exemple, tous ceux qui sont des bourgeois, mais dans le sens privé, et par exemple des avocats, des médecins, ils sont déjà en train de se mettre comme au nom d'entreprise, parce que justement, ça va leur permettre d'être taxés au niveau de l'entreprise et plus au niveau de la personne, et ça va être avantageux pour eux. Donc, c'est pas des millions qu'on va perdre, mais c'est des milliards. Il y a autre chose aussi, c'est en réalité, il y a quelque chose aussi, il faut comprendre, c'est que la bourgeoisie, les patrons, eux, c'est pas un problème pour eux que l'État fasse plus de dépenses, parce que tout leur processus de privatisation, etc., en général, ça engendre plus de dépenses. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait plus de monde sur le marché du travail et plus de gens à diriger, à donner des ordres. C'est comme si c'était quelque chose de pathologique de vouloir contrôler les gens. La fonction publique, un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui est hors du marché du travail. C'est un emploi qui est fait par les travailleurs, pour les travailleurs. Tandis que le privé, en général, c'est par les travailleurs, mais pour une personne, pour une compagnie ou pour un bourgeois. Ouais. Alors que la fonction publique a vraiment permis de libérer le travailleur de cette aliénation qu'est le monde du privé. Et je pense que petit à petit, on essaie de retourner vers une société où tout est privé, comme on avait au début du capitalisme dans les années 1800.
Donc là, on voit que les dangers sont imminents, qu'ils sont nombreux et que voilà, on a une forme. On parlait déjà à l'époque pour ces traités multinationaux, TISA et compagnie, de cliquetis, c'est-à-dire de logique de marche en avant et de non-réversibilité des choses. Qu'arriverait-il dans le cas où effectivement la RFFA passe, les luttes seront tout de même possibles et seront menées? Est-ce que vous pensez un petit peu déjà à ça, ou est-ce qu'on y va à fond et on se dit là, il faut qu'on dise un bon gros non pour la énième fois et qu'on enterre une bonne fois pour toutes cette RFFA?
Ben, alors moi là, je vais dire, il faut clairement qu'on dise non, mais après il faut quand même être réaliste d'une chose, c'est que comme je disais avant, le dominant, donc le bourge, il veut garder sa position de dominant. Donc aujourd'hui, si de nouveau RFFA passe pas, ils vont à nouveau essayer. Ils vont vraiment le faire jusqu'au bout, jusqu'à que les gens soient fatigués. Ils ont assez d'argent pour faire ça. Au lieu de disons, même eux, ça les dérange pas de payer des sommes astronomiques, quitte à perdre de l'argent eux-mêmes pour faire passer ça. Mais tant qu'ils restent à dominer sur d'autres personnes, à pouvoir se dire, ben moi je peux insulter des gens parce que je suis le patron, je suis un être supérieur, ils vont tout faire pour que ça passe. Si ça passera pas aujourd'hui, ils vont essayer de le faire demain. Et si demain ça fait pas, ben c'est encore après-demain. Donc là, pour aujourd'hui, je dirais clairement qu'il faut dire non. Et en fait, pour toutes les fois, il faudra dire non. Mais il faut maintenant se dire que ça suffit plus juste de dire « Ah, ben voilà, on aura telle perte fiscale, etc. » Vraiment maintenant se concentrer avec la population sur une problématique de classe. Ouais. C'est ça vraiment qui empêchera RFFA de passer.
Et puis la transparence des campagnes également, ça ce serait quelque chose sur lequel il faudrait revenir urgemment, ainsi que peut-être un plafonnage des campagnes, des frais de campagne. Ça ferait partie, par exemple, d'un arsenal qui permettrait de recouvrer une forme de démocratie qui soit plus, qui fasse plus sens d'une certaine manière.
Oui, bon, après moi, je pense que c'est pas que ça, parce que disons un travailleur, il n'a pas le temps de beaucoup militer. Moi, là maintenant, j'ai un peu plus parce que je suis à l'école, du coup voilà. Mais quand j'étais en entreprise, j'avais très peu de temps pour militer, et puis c'était fatigant. Ces gens-là, alors ils vont dire que ouais, ils ont un métier à beaucoup de responsabilités, etc. Moi, quand je voyais mon patron, turbo-sieste, il était toujours sur la chaise du Corbusier, il venait une heure plus tard, il se barrait une heure plus tôt, etc. Donc leur pseudo-responsabilité qu'ils ont plus, ça c'est du pipeau. Si vraiment c'était si dur que ça, ils ne feraient pas patron. Ils seraient aussi des prolos, comme ils aiment bien nous voir un peu, et puis pas des patrons. Donc eux, ils ont déjà c'est une plus grande accessibilité à faire de la politique. Eux, ils peuvent prendre du temps, et c'est les patrons de la boîte, ils disent « Bon, ben moi, je prends la demi-journée pour ma réunion politique avec des autres groupes patronaux. » Le PLR, finalement, quand on voit tous les membres du PLR, ils ont énormément de temps. En plus, ils payent des agences pour faire tout leur communiqué, puis quasi toute leur politique, en fait, elle n'est presque pas d'eux. En fait. C'est des gens, ils sont payés pour penser à leur place, finalement.
Mmh. Ouais. Comme tu dis, ils ont du temps, ils ont du réseau, il y a de la collusion, et du coup, on part de loin, de notre côté. Écoute, Emiliano, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations. Voudrais-tu peut-être encore préciser quelques notions ou pour aujourd'hui ? Quoi qu'il en soit, on va devoir se revoir avec plaisir d'abord, et puis ensuite pour continuer les luttes par rapport à ça, parce qu'effectivement, eh bien, le 19 mai est tout proche, et puis il y aura un 20 mai, un 21, etc., etc. Voilà, voudrais-tu compléter encore ce que tu viens de dire ?
J'aimerais juste rajouter une chose, mais c'est pas par rapport à RFFA, c'est par rapport à la subvention du subside en plus. Nous, on appelle à voter non. Alors, ça peut paraître bizarre, ce non, mais il faut savoir une chose, c'est que si on commence à... Déjà, le subside en plus, ça va être encore une fois les travailleurs qui le payent. Donc, on dit, c'est pour aider les travailleurs, etc., c'est pour aider à payer leurs assurances maladie. Mais si, par exemple, RFFA passe, ben, ça va être à nous de payer. Donc, finalement, on paye en plus quelque chose que sinon, on devrait payer direct. Autre chose aussi, pour les assurances maladie, c'est génial ce truc de subside. Parce qu'ils se disent, c'est bon, il y a l'État qui nous finance, etc. Ça donne l'impression que c'est un service public. C'est comme si toutes les écoles étaient privées, mais qu'il y a une aide de l'État pour que l'enfant puisse rentrer gratuitement, entre guillemets, dans cette école. Ben non, ça reste du privé. Finalement, les assureurs, ils pourraient clairement voter Ensemble à Gauche et Parti Socialiste, parce que le subside, ça les arrange très bien. Moi, j'appelle à aussi une cassure par rapport à ça. Le Parti communiste appelle une cassure par rapport à ça, à dire que maintenant il faut arrêter avec ce subside, il faut arrêter avec ce système de santé privée et avoir un système de santé publique basé sur des cotisations sociales.
Très bien, très bien. Eh bien, on prend bonne note de tout ça. On lance également un appel à rejoindre ce groupe, ou en tout cas à s'informer via la page Facebook actuellement, et puis il y aura ensuite un site, etc. Tout ça est en cours de préparation. Allez, pour en terminer là et pour étendre et pour en finir avec une question un petit peu plus large, c'était le 1er mai tout récemment, vous avez certainement défilé. Alors, selon toi, le 1er mai, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça porte encore, si ça porte encore des choses ? Et comment l'as-tu vécu ici à Genève, ce 1er mai ?
Alors bon, déjà, premièrement, j'étais content parce que ça faisait des années que j'ai pas pu participer parce que dans le privé, on peut pas. Donc déjà, là, j'étais super content de pouvoir reparticiper. Le 1er mai, c'est une valeur historique. C'est quand même rendre hommage à ces ouvriers qui ont été pendus aux États-Unis, ces ouvriers anarchistes. Donc je trouve que ça c'est toujours important de le rappeler. Peut-être on le rappelle pas assez, mais c'est important. Et puis même si c'était à l'époque et qu'on se dit oui, c'est vrai, à l'époque ça se faisait, mais plus maintenant, ça peut se refaire. C'est il n'y a pas si longtemps que ça. Et comme disaient les FARC aussi, ils disaient les bourgeois ils entendent que la violence. Les FARC, avant d'être un groupe armé, c'était des simples paysans qui avaient essayé de trouver un moyen d'avoir leur terre, à qui on avait volé leur terre. La bourgeoisie avait directement réagi violemment. La bourgeoisie connaît que la violence, les patrons connaissent que la violence, et je pense qu'avec les années à venir, ils vont revenir avec une violence. Ça ne m'étonnerait pas de revoir, comme à Genève le 9 novembre en 1932, l'armée qui vient tirer sur des manifestants d'ici 5-10 ans.
On voit de plus en plus de lois qui seraient l'équivalent des lois scélérates émerger, des lois extrêmement répressives, avec une répression féroce, et on le voit notamment à l'aune des Gilets jaunes en France, où là, vous avez une position concernant les Gilets jaunes ?
Alors moi je soutiens énormément les Gilets jaunes. En plus, je trouve qu'ils ont apporté quelque chose de très bien au débat politique. Justement, ils re-questionnent aussi la question du syndicalisme, la question des conventions collectives du travail. Et puis ça, c'est très important parce que ça montre aussi qu'il y a une cassure au niveau des syndicats. Alors moi, comme je disais avant, il ne faut pas non plus jeter la pierre comme ça. Il faut quand même dire qu'on déteste, parce qu'on déteste, ça ne marche pas non plus. Mais là, il y a vraiment un raisonnement politique. C'est vraiment un mouvement de base. Ce fait aussi de se mobiliser sur les ronds-points, c'est quelque chose de vraiment tout nouveau. Ça sort du folklore aussi. Et puis ça montre aussi quelque chose, c'est qu'en réalité, et puis ça pourrait calmer beaucoup d'intellectuels en fait, qui pensent eux être l'avant-garde du mouvement ouvrier, ce qui n'a jamais été le cas. Ça montre à nouveau que c'est les travailleurs, c'est des gens simples qui n'ont pas forcément une très très grande connaissance. Bah oui, ils ont une très grande connaissance parce qu'ils ont l'école de la vie. Ils ont l'école de la vie. Quand je travaillais dans un fast-food, c'était l'endroit où j'ai appris le plus de choses parce que c'était des gens qui avaient vécu l'école de la vie, à différence de l'agence où je bossais. Mais c'est des gens qui, finalement, ils ont apporté énormément. Ils apportent encore beaucoup. Moi, j'espère qu'ils durent encore. Mm-hmm. Après, moi, je trouve aussi dommage, par exemple, après, bon, moi, je suis extérieur à ça. Souvent, les jeunes... ils se mettent plus dans des grèves pour le climat plutôt que soutenir les gilets jaunes, ce qui pour moi est une aberration totale. Si je peux donner un exemple simple, tout bête, imaginons qu'il y ait des travailleurs du McDonald's qui disent « Ah, ben, on fait grève, mais pour des questions de salaire ». Finalement, ça fera beaucoup plus de bien niveau climat parce qu'ils bloquent un McDonald's. Donc ils bloquent toute une production agroalimentaire, même si c'est juste pour des questions de salaire que des gens... Alors c'est pas non plus pour leur jeter la pierre, hein, c'est aussi un début de mobilisation politique, que des gens qui disent « Ah ouais, mais c'est génial, on a fait une grève qui est en réalité une manifestation parce que c'est pas pendant les heures de pointe, ça bloque rien du tout, et qui finalement change rien, puis ça mettra encore plus de saloperies par terre dans la rue, quoi. Enfin, après, c'est toujours bien parce que c'est un bon début. Moi aussi, j'ai commencé comme ça, mais je suis très critique de mes débuts. En fait, ouais, je suis très critique parce que c'était des débuts très folklore. Et moi, je trouve les gilets jaunes, c'est tout le contraire. En fait, c'est vu que c'est pas des gens qui sont habitués à ces trucs très gauchistes, on va dire.
À tergiverser.
Ouais. Ben ils ont créé un mouvement et très efficace. En fait, il est même efficient, je dirais.
Absolument. Écoute, très bien. Merci beaucoup, Emiliano. C'était extrêmement intéressant tout ceci. On se retrouve à toute façon pour parler encore de toutes ces choses-là parce qu'effectivement. Il y a encore 1000 arguments qu'on pourrait aborder et on les abordera dans le temps. Voudrais-tu peut-être rappeler encore comment est-ce qu'on peut contacter le groupe, vous rejoindre, vous connaître, vous découvrir et puis peut-être si des prochaines actions sont prévues, voudrais-tu nous les annoncer ?
Alors, pour nous contacter sur Facebook ou sinon sur fplbourges.ch aussi, on peut nous contacter. Ainsi que dans les commentaires des vidéos d'apprentis énervés, ou aussi on peut me contacter s'il y a des questions. Donc voilà. Là, pour les prochaines actions, il y aura bientôt une prochaine vidéo d'apprentis énervés qui va sortir. Et sinon,
certainement au lendemain du 19, vous réfléchirez à quelque chose selon, j'imagine, les résultats.
Ouais, aussi, voilà. Et sinon, on compte aussi participer avec d'autres jeunes au tournoi antiracisme.
Le tournoi de foot, qui aura, on sait déjà le lieu ou pas encore cette année ? Parce que l'année passée, ça a été compliqué. Finalement, ça avait lieu à Collignon.
C'est un autre camarade qui charge de l'organisation de tout D'accord. ça. Du coup, je suis pas au courant de tous les détails. Alors, par contre, ça va pas être au niveau du Parti communiste que ça s'organise. C'est plutôt un groupe de jeunes travailleurs pour que vraiment ça soit large.
Absolument. Merci beaucoup, Emiliano, et à bientôt.
Merci.